J'avais juste à cœur de dire aussi, vous êtes vraiment bénis dans ce couple qui est là pour vous servir en tant que pasteur. Et ouais, je bénis le Seigneur pour ce qu'ils sont, ce qu'ils donnent au prix de leur temps, de leur repos, de beaucoup d'autres choses, je pense. Mais je bénis Dieu pour leur service. Et ouais, je vous le recommande encore ce matin à vous, l'Église. Et oui, c'est vraiment super de vous voir en présentiel, enfin. On a commencé à connaître Bruno, en tout cas, vraiment en tout début du Covid. Donc, presque toutes les connexions qu'on a eues jusque-là, et je reconnais certains visages, ça a été sur Zoom. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être enfin avec vous, en chair et en os. Et du coup, je vais partager quelque chose que je crois le Seigneur m'a donné pour vous. Et puis John va prendre la suite juste tout à l'heure. Et je commençais à prier pour ce matin et pour vous. Et j'étais dans ma lecture quotidienne dans Exode. Et figurez-vous, j'arrive au moment de prière et puis j'ouvre ma Bible et je suis dans Exode 31. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaléel. Et je dis, ah ben non, Seigneur. C'est sûr, ils ont eu tellement de prophéties sur ce passage et sur ce que tu dis, etc. Je veux apporter quelque chose de nouveau, je ne veux pas dire ça encore. Mais le Seigneur m'a dit, bah non, si. Je veux leur rappeler et leur encourager encore une fois par ce passage. Donc, je vais vous le lire. Je suis sûre que vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais on va continuer. Du coup, verset 1, c'est « Sache que j'ai choisi Betsaël, dit Dieu. » Fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. » Et voilà, ça continue à expliquer les travaux pour le tabernacle. Mais ce que j'entends dire Dieu pour vous, c'est en effet un rappel pour l'Église Betsaleel. Comme dit Dieu, dit encore une fois, « Je vous ai choisi. » C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'intelligence et de savoir-faire, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire. Et ce que je demande de vous, c'est que vous m'obéissiez, que vous vous conformiez à tous mes commandements. C'est ce qu'on va, je ne l'ai pas lu, mais c'est un peu plus tard dans le texte. Et en 36 encore, on lit juste la suite, Betsaleel, Oléab et tous les artisans qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ses travaux réaliseront les objets destinés au service, service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Et ce que j'entends dire le Seigneur, c'est que ce à quoi il vous appelle s'agit, oui, de la consécration. Une consécration à Dieu. Mais ce que je vois dans ce texte et ce que j'entends de Dieu, je crois pour vous, c'est qu'il veut dire c'est lui qui vous a consacré. On a peut-être tendance de focaliser sur nous-mêmes quand on parle de la consécration. Et Dieu dit, je vous ai choisi. Je vous ai consacré. Et il s'agit de cette consécration de Dieu. C'est lui à l'initiative de notre consécration, pas nous. Et la question peut-être qui suit, c'est bah, comment? Alors, comment est-ce que Dieu nous a consacrés? On peut lire plus loin dans le texte. Je fais juste un tout petit référence à cela. En Lévitique 8, Dieu dit à Moïse de prendre de l'huile de l'onction et le sang de la victime, et il s'agit du bélier de la consécration, et d'oindre Aaron et ses fils pour le service des prêtres. Et c'est cette consécration. par le sang et par l'huile que Dieu veut vous rappeler ce matin. Si vous avez confessé avec votre bouche que Jésus est Seigneur dans votre vie, si vous avez, vous êtes fait baptiser, reçu le Saint-Esprit, vous êtes consacré par le sang de Jésus et par le don de l'Esprit qu'il vous a donné. Et c'est cela qui fait que vous êtes consacré. Mais ce que Dieu veut, pas mais, et ce que Dieu veut vous donner, c'est la capacité, oui, l'onction pour d'intelligence, d'habilité, de savoir-faire, pour obéir à tous les commandements. Ça, c'était, il donne l'esprit pour réaliser toutes ces choses, mais il donne l'esprit surtout pour que nous puissions lui obéir. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cette phrase, ils se sont conformés à tous les commandements de l'Éternel, je me dis, mais moi, je n'arrive pas. En tant qu'être humain, depuis le jardin, où on a tourné le dos sur Dieu, nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, à nous conformer à tous les commandements de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. Il nous remplit. Il vous a choisi, Betsalel. Il vous a rempli de son esprit, afin, oui, que vous puissiez accomplir des choses, mais surtout afin que vous puissiez vous conformer à tous les commandements de l'Éternel. Et il veut vous remplir, comme on a chanté ce matin, il veut vous remplir encore et encore, afin que vous puissiez lui obéir, oui, à tous ses commandements, suite à son initiative. C'est Dieu qui vous a choisi. Et je crois qu'il veut vous rappeler ce matin. C'est lui qui vous consacre par le sang de Jésus, par l'huile du Saint-Esprit. Et c'est vous qui va vous, qui va vous équiper et vous permettre de lui obéir en toutes ces choses. Donc, soyez encouragés. Et je laisse la place à John.
Super. Merci Naomi. Du coup, elle ne nous a pas présenté. je suis John, Naomi évidemment. Nous venons de Créteil, nous sommes contents de ne pas être les seuls cristoliens. Ici, il y a Virginie, qu'on a connue il y a 12-13 ans, quand elle était encore plus jeune, et nous aussi d'ailleurs, et plus mince aussi, j'étais. Pas Virginie, je ne parle pas de Virginie, excuse-moi. Mais on est vraiment ravis d'être avec vous. On est à Créteil, on est dans une implantation d'église. On a implanté une église et on veut encore implanter des églises à Créteil, dans la région parisienne. Et nous travaillons avec la famille Destinée. Donc, je pense Eddie Wallet, Jean-Philippe, Grégoire, vous connaissez bien. Ce sont de bons amis avec qui on travaille. On est ravis d'être avec vous. Comme Naomi le disait, je pense que le dernier déplacement que j'ai fait avant Covid, c'était ici pour une rencontre juste avec les responsables, un petit apéritif. Donc voilà, c'est presque le premier après Covid là qu'on fait. Donc vraiment ravi d'être avec vous. Ouais, Dieu vous a appelé, Dieu vous a consacré, et c'est Dieu qui le fait en vous. C'est ce qu'on a entendu de Naomi. Et je crois que c'est ce que Dieu veut encore souligner pour vous aujourd'hui. Dieu vous a consacré, Dieu vous a choisi. Dieu vous a consacré par son sang, par le sang de Jésus et par son esprit. Et c'est, il nous a appelés tous pour sa gloire et c'est lui qui le fait en nous. Mais pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie à essayer de me consacrer, plutôt que de vivre à partir du fait que Dieu m'a déjà consacré en Christ. Vous me suivez? On doit se consacrer, évidemment. C'est notre job en tant que chrétien, mais c'est toujours sur la base de la consécration opérée pour nous en Jésus-Christ, et pas indépendamment de cela. À chaque fois que je lis l'évangile de Jean, Dieu me parle dans le verset 18 du chapitre 7, vous pouvez regarder si vous voulez, on ne va pas rester longtemps. Mais Jésus dit ceci. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il parle de lui-même, bien sûr. Mais je lis ça et je me dis, celui qui parle de sa propre initiative. Bah, Seigneur, combien de fois est-ce que je finis par parler de ma propre initiative? Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelques années, quand je lisais la Bible, quand je lisais les épîtres, par exemple l'épître d'Éphésiens, je sautais les trois premiers chapitres parce que c'était juste par rapport à ce que Dieu a fait. Ça ne m'intéressait pas, je voulais savoir par rapport à ce que je devais faire. Mais quand tu sautes les trois premiers chapitres, tu rates totalement cette consécration, ce que Dieu a fait. On rate l'initiative de Dieu et on se concentre sur notre initiative. Et on perd quelque chose, on est totalement déséquilibré à ce moment-là. Et ma prière, c'est Père, aide-moi à te laisser à prendre l'initiative. Nous vivons dans une période incertaine en ce moment. En réalité, ce n'est pas plus incertain qu'avant. C'est juste qu'on en est plus conscient. Il y a pas mal de choses dans nos vies qui sont chamboulées. Et si tu es comme ça, comme moi, face à ce genre de situation, naturellement, tu vas essayer de trouver quelque chose auquel tu as grippé pour reprendre les choses en main, pour essayer de contrôler, maîtriser les choses. Est-ce que je suis le seul comme ça? Non? On se sent un peu dans l'insécurité, on veut contrôler, on veut gérer. Mais Jésus ne vivait pas comme cela. Il était à la recherche de la gloire de celui qui l'a envoyé. Donc, il ne pouvait pas être chamboulé. Ce n'était pas lui à l'initiative, mais il suivait toujours l'initiative de son Père. Et il n'avait pas besoin de contrôler, il n'avait pas besoin de gérer. Il se soumettait à l'initiative du Père. Alors, si nous avons envie de passer par ces chamboulements, et les chamboulements de cette période, soumettons-nous à Jésus et à l'initiative du Père. Nous savons ce que fait le Père, parce qu'il nous l'a révélé dans sa parole. Et plus particulièrement, je vous propose aujourd'hui qu'on regarde ce qu'il nous a révélé de son initiative, de ce qu'il est en train de faire dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Si vous voulez tourner dans votre Bible avec moi, je n'ai pas de PowerPoint. Donc si vous voulez prendre la Bible pour lire avec moi, ce serait très bien. Vous pouvez vérifier que je ne dis pas de bêtises. Parce que ce qui est important, c'est ce que lui dit, Jésus. Mais ici, dans ce chapitre, nous avons une description de la volonté de Dieu, de ce que lui faisait au travers de Jésus et de ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Et nous allons voir que nous soumettre à l'initiative du Père, ça veut dire trois choses. Trois choses. Mais tout d'abord, nous allons lire. OK, ça va, on va lire tout le chapitre. C'est un peu long, donc accrochez-vous, mais on y va. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Jésus, merci pour ta parole. Donne-nous à entendre ta voix aujourd'hui. Amen. Alors, si nous allons vivre cette vie consacrée, cette vie où c'est Dieu qui a l'initiative, il y a trois choses que nous allons avoir besoin de vivre, trois choses que nous allons avoir besoin de laisser se passer en nous. Et la première, c'est être épris de qui Dieu est. Être épris de qui Dieu est. Dieu, est-ce que ça vous embête de dire avec moi? Parce qu'on a tous les masques. Et si on peut juste dire ensemble ça, on est ensemble comme ça. Ça va? 1, 2, 3. Être épris de qui Dieu est. Être épris de qui Dieu est. En verset 1 qu'on a lu, Jésus dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Je ne sais pas pour toi, mais je suis épaté par Jésus. On est la veille de la croix, il sait ce qu'il attend le lendemain, mais il ne prie pas, comme ce serait mon cas, devant toutes sortes de difficultés, mais je n'ai jamais fait face à la crucifixion, mais devant toutes sortes de difficultés, moi j'ai plutôt tendance à prier, « Protège-moi Seigneur, fais que ça s'arrête, s'il te plaît, arrête, tu peux. » Mais Jésus prie, révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Révéler la gloire, ça peut être un mot religieux, un peu mystérieux. Peut-être qu'on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Mais en somme, ça veut dire tout simplement révéler qui il est vraiment. Jésus prie que Dieu révèle qui il est vraiment au travers de lui. Il prie, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils puisse révéler ta gloire. Il est en train de demander que Dieu révèle qui il est vraiment afin qu'il puisse révéler qui est Dieu. Après, au verset 2 à 5, Jésus parle de sa mission d'accorder la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Et il dit qu'il a terminé son travail. Il va aller à la croix le lendemain. Cette prière, Jésus le priait la veille de la croix. Et le lendemain, il sera sur la croix. Il n'a pas encore dit « tout est accompli », mais « tout est en place pour ». C'est donc par la croix que Jésus termine de révéler la gloire de son Père. C'est par la croix, quand Jésus prie, révèle ta gloire, il est en train de dire, viens, faire ce que tu as prévu de faire. Dans un autre évangile, on va lire qu'il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est en train de dire, fais ce que tu as prévu, révèle ta gloire au travers de la croix. La gloire de Dieu est centré sur le don de soi pour le salut des hommes. Et cette gloire est là depuis le début des temps. On lit en Apocalypse 13, verset 8, « L'agneau immolé avant la création du monde se donnait pour donner la vie éternelle et dans la nature même de Dieu. » C'est au centre de qui Dieu est. Ça, ça résume la gloire de Dieu. À la croix, on voit le summum, l'ultime révélation de la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis à l'initiative dans ma consécration pour mon service pour Dieu, quand je me mets en avant, quand j'oublie que c'est Dieu qui m'a consacré et je pense que c'est moi qui dois me consacrer tout seul, je ne pense pas beaucoup à qui est Dieu. L'essentiel pour moi, c'est de m'affirmer en rendant le service. Ça peut être la prédication, ça peut être à la louange, ça peut être à l'accueil, ça peut être dans l'évangélisation, ça peut être plein de choses, mais quelque part en moi, mon désir peut être de m'affirmer plutôt que de partir à partir de qui est Dieu. Mais si nous allons vivre à partir de l'initiative de Dieu, nous allons avoir besoin d'être épris de la nature même de Dieu, comme Jésus. À tel point que la veille de la croix, alors que Jésus se prépare pour aller à la croix, ce qui sort de son cœur, c'est cette prière, « Révèle ta gloire !» C'est pas « Protège-moi !» C'est pas « Garde-moi !» C'est « Révèle ta gloire !» Ce qui vibre dans le cœur de Jésus, c'était « Révèle, révèle ta gloire !» La croix, c'est l'accomplissement de cette prière, parce que c'est là que, de manière ultime, Dieu se révèle comme le Dieu de la justice, qui devrait juger notre rejet de lui et de ses instructions. Romains 8, verset 3, dit qu'il a condamné le péché dans la nature humaine par Jésus sur la croix. C'est une condamnation. La croix, c'est une révélation du Dieu de justice. Le Dieu de la justice, qui est droit, qui est totalement droit, qui est tellement beau, qui... S'il n'était pas droit, on ne pouvait pas espérer un meilleur monde. Mais il est droit, il est juste, et on le voit à la croix. Mais on voit en même temps le Dieu de la grâce qui est venu lui-même, en la personne de Jésus, prendre sur lui-même le jugement de Dieu. Et ma question pour nous, ma première question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous sommes toujours ébahis devant la croix? Est-ce que nous sommes toujours ébahis devant qui Dieu est, devant la nature même de Dieu, Dieu de la justice, qui doit juger le péché. S'il ne juge pas le péché, il n'y a aucun espoir pour nous. Il n'y a aucun espoir pour un meilleur monde, parce que les injustes et les mauvais vont s'échapper vite, et sans problème. Le problème, c'est que nous aussi, on est mauvais, et Dieu doit nous juger. Mais la bonne nouvelle, que c'est aussi le Dieu de l'amour qui prend sur lui notre péché, qui prend sur lui le jugement, qui le porte et qui le prend à notre place. Est-ce que nous sommes toujours ébahis, épatés devant qui Dieu est? Si nous ne le sommes pas, nous allons vivre de notre initiative. Nous allons partir de nous. Mais si nous allons vivre de l'initiative de Dieu, si nous allons vivre à partir de cette consécration que Dieu a faite pour nous par son sang et par son esprit, nous allons être ébahis et avoir besoin d'être encore épris de la nature même de Dieu. On est en train de lire, donc nous avons deux enfants, Ruben qui a 14 ans. Je pense que quand Virginie l'a rencontré, il avait 18 mois, donc comme les tiens aujourd'hui. Mais maintenant, c'est un gros gars qui est un grand gars, je devrais dire, qui a presque cette taille-là. Et Anaïs, elle a 12 ans, une belle jeune fille. Mais avec eux, on est en train de lire un livre de Frère André de l'association Portes Ouvertes. Et il parle un peu, partage quelques témoignages de ce qui passe dans le monde musulman. Et il partageait ce témoignage d'un musulman qui est venu au Seigneur quand il lisait le serment sur la montagne et que Jésus a dit qu'il fallait tourner l'autre joue quand on te frappait. Alors que lui, il avait toujours été enseigné que quand quelqu'un te frappait, tu te frappais deux fois. Et ça, c'est humain. Quelqu'un te frappe, tu frappes deux fois, c'est humain. Ça, c'est la réponse naturelle. Mais nous avons un Dieu qui détourne notre joue. Pourquoi? Parce que dans la nature même de notre Dieu, il y a la croix. Il y a le fait de se donner pour la vie éternelle des autres. C'est dans la nature même de notre Dieu. Notre Dieu est comme ça. Et quand il a vu cet aspect de Dieu, quand il a vu Dieu, il a vu, moi je veux ce Dieu-là. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Oui, nous connaissons ce Dieu. Mais est-ce que nous sommes toujours épris de ce Dieu? Est-ce que nous sommes toujours ébahis par qui il est? Ou est-ce que nous avons pris quelque part l'habitude? On pourrait en parler le reste de la matinée, le reste de la semaine, le reste de l'année. C'est la définition même de la beauté, notre Dieu. Tu peux le regarder de tout plein de manières, tout plein de facettes, mais il est comme ça, justice et amour, rencontré à la croix, présenté pour nous. Pas juste. Et parfois aujourd'hui, peut-être influencé par notre culture, on peut commencer à penser à notre Dieu comme un papy gentil, un peu douillet, qui est amour, qui va tout faire pour nous. Et oui, il est amour. Mais son amour est meilleur que ça. Parce qu'en réalité, c'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu qui doit nous juger, qui doit juger. Parce que s'il ne le fait pas, il y a l'injustice au cœur de son beau monde qui est bon. Mais ce jugement, il l'a porté sur lui-même. Il n'y a aucune autre religion, aucune autre philosophie qui ne présente une alternative aussi belle. Et en plus, c'est la vérité. Toutes les autres prétendues vérités, ce sont des coquilles vides. C'est pour cela que Jésus prie la veille de la croix. Révèle ta gloire. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse se passer pour Dieu, pour nous, pour le monde entier. Et c'est pour cela que Jésus prie en verset 21, comme on a lu, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il veut que le monde entier puisse voir ce Dieu. Alors le Dieu qui nous a consacrés, le Dieu qui vous a consacrés par le sang et par son esprit, c'est ce Dieu qui veut se révéler au monde, qui veut révéler sa gloire, sa nature même, le Dieu de la justice et le Dieu de l'amour à tous. Pour vivre selon son initiative, nous allons avoir besoin d'abord d'être épris de qui Dieu est. Deuxième, comprendre. Pour vivre selon l'initiative de Dieu, nous allons avoir besoin de comprendre la valeur de la communion avec Dieu. Comprendre la valeur de la communion avec Dieu. On peut le faire ensemble? Comprendre la valeur de la communion avec Dieu. En verset 11, Jésus prie, « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Alors, dans cette prière, Jésus prie pour deux groupes de disciples. Ceux qui sont présents avec lui, que le suivaient à ce moment-là, et puis pour tous ceux qui reconnaissent que Jésus vient de Dieu et qui l'écoutent, y compris nous. C'est pas beau ça? Ici, dans ce texte, on a une prière que Jésus n'a pas priée uniquement pour ceux qui étaient là, mais aussi pour nous. Jésus définit les disciples comme ceux que Dieu lui a donnés, qui reconnaissent que Jésus vient de Dieu et qui acceptent sa parole. Si c'est toi, si tu reconnais que Jésus vient de Dieu, si tu acceptes sa parole, alors Jésus a prié pour toi dans cette prière. Et pour eux, il prie la protection afin qu'ils restent dans le nom du Père. Garde-les en ton nom. C'est marrant. Quand nous prions protection, et on l'a prié beaucoup, je pense, ces deux dernières années, avec raison, mais quand nous prions protection, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi, je prie que rien de mauvais ne se passe. C'est ce que je veux dire par protection. Mais Jésus prie protection afin que nous soyons gardés en le nom du Père, gardés en tout ce que les noms de Dieu représentent, sa paternité, sa seigneurie, son amour, sa provision, sa guérison, en lui, gardés en cette connexion avec Dieu au travers de Jésus. Par la repentance, par la foi, par le baptême et par le baptême dans l'Esprit, vous avez reçu une connexion avec Dieu en Christ. Vous êtes en Christ aujourd'hui, la Bible dit. Nous sommes en Christ. Et c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Nous n'avons rien de plus précieux. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus prie, garde-les en ton nom. Garde-les dans cette connexion avec toi, parce qu'ils n'ont rien de plus précieux. C'est la chose la plus précieuse qu'ils ont. C'est la chose la plus précieuse qu'ils puissent avoir, cette connexion. Tournez juste très rapidement avec moi à Luc 21, versets 16 à 19. Parce que je veux vous montrer comment Jésus, il a une autre perspective sur la protection que moi. Je l'aime pas beaucoup, sa perspective, honnêtement. C'est-à-dire dans ma nature propre. Mais verset 16 du chapitre 21, l'évangile de Luc. Vous serez trahis. C'est le discours sur le mont des Oliviers. Il est en train de parler de ce qui va se passer après son départ. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors, verset 16, l'on vous fera mourir plusieurs d'entre vous. 18, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Je dis, mais Seigneur, tu n'as pas la même idée de protection que moi, parce que là ils vont mourir, mais ils ne perdent pas un cheveu de leur tête. Je pense que ça, ce que nous montre, c'est que pour Jésus, la protection est... Bien sûr, il est avec nous dans la souffrance. Bien sûr, il est là pour nous garder de malheur. Mais les malheurs arrivent. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas gardés. Mais c'est parce que la chose qui veut nous garder plus que toute autre chose, c'est nous, en son nom. C'est cette connexion avec lui. C'est ça qui est le plus important. C'est la... Le bien le plus précieux que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Pas la sécurité, pas la paix extérieure. Ces choses-là, ils peuvent être touchées. Ils ont été touchés ces dernières années. Ils vont l'être encore. Jésus nous l'a promis. C'est ça la vie de disciple. Mais il y a une chose qu'il promet et une chose pour laquelle il prie. Garde-les, Père, en ton nom. Garde-les en toi. Garde-les dans cette connexion. Protège-les dans cette connexion avec toi. C'est ça sa priorité pour toi et pour moi. Si nous allons vivre à partir de son initiative dans notre vie, nous allons avoir besoin de comprendre la valeur de cette connexion, la valeur de la communion qu'il a établie avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais comprendre que Jésus considère ma communion avec le Père comme plus important que la vie change mon attitude envers la prière et envers la lecture de la parole. Ce ne sont pas des choses qu'on fait parce qu'un bon chrétien devrait le faire. Ce sont les choses qu'on fait parce que Dieu a établi une communion pour nous en Jésus-Christ. On ne lit pas la Bible pour devenir chrétien, on est chrétien. Si on a reçu Jésus, si on a reçu cette nouvelle vie, on est en lui. Maintenant, on vit cette nouvelle vie en lisant sa parole, en priant, en le laissant nous parler, en le laissant travailler dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour ça qu'on a besoin de ces aides pratiques. Qu'on a parlé tout à l'heure de oui, le carnet, excellente idée, et tout ce genre d'aide pour continuer à vivre, pour rafraîchir, pour renouveler. Mais tout cela, c'est à partir de l'initiative du Père. C'est à partir de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose, mais c'est pour vivre ce que Dieu a établi. Il est impossible de vivre la vie de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit qui nous remplit. C'est pour ça qu'on prie. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans cette puissance. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans la parole qui nous donne la force pour vivre, parce que le christianisme n'est pas une philosophie, ce n'est pas un style de vie. C'est l'annonce de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et il nous a mis en lui. Par la foi, il nous a mis en Christ. Nous avons cette communion avec lui. Et c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir. Si aujourd'hui tu es là et tu n'es pas certain d'avoir cette communion, parce que tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus, tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, aujourd'hui tu peux. Aujourd'hui tu peux et Dieu veut te donner cette communion avec lui. Il veut te mettre en Christ. Il veut te donner la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. C'est cette communion avec Christ. Pour vivre selon son initiative, selon l'initiative de Dieu, nous avons besoin de comprendre la valeur de la communion avec Dieu. Enfin, si nous allons vivre selon l'initiative de Dieu, nous avons besoin de réaliser l'importance de l'unité. On peut le dire ensemble? Réaliser l'importance de l'unité. Si nous allons vivre par l'initiative de Dieu, on a besoin de réaliser l'importance de l'unité. Verset 21, Jésus prie que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça devient un peu compliqué. Et c'est parce que Jésus est en train de dire, toi et moi, Père, on est un. Mais que eux aussi puissent être un de la même façon. Parce que toi et moi, on est un, on partage, on les inclut dans cette communion. La communion que nous avons avec Dieu est du même genre que cette communion que le Père et le Fils ont depuis toute l'éternité. Est-ce qu'on voit à quel point c'est précieux? C'est précieux! Il n'y a rien de plus précieux que cela. Mais il le fait afin que nous puissions vivre cette unité. L'unité de l'Église reflète l'unité entre le Père et le Fils. Elle communique quelque chose au monde. On utilise souvent ce texte. Et avant d'étudier un peu plus en profondeur ces derniers temps, ce texte, j'ai associé ça juste automatiquement avec l'unité entre Églises, quoi. C'est un peu le texte qui est souvent utilisé pour l'importance de l'unité entre églises. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans ce sens. Il y a une puissance quand de vrais disciples de différentes assemblées se retrouvent et travaillent ensemble. On a besoin des uns des autres, non seulement dans l'église locale, mais aussi entre les églises. Mais ces paroles sont beaucoup plus pertinentes pour nous lorsqu'on les applique à notre église locale, à notre petit groupe, aux relations avec les frères et sœurs qu'on vit au jour le jour, de semaine en semaine, ou bien qu'on les applique aux églises que nous implantons dans la mission. Nous voyons ici, en effet, le pourquoi d'implantation d'église. Pourquoi nous avons rencontré, c'est Jacqueline, c'est ça, qui était là au début, je pense, de cette église, tout à l'heure. C'était excellent. Mais c'est Dieu vous a utilisé pour établir une communauté à sa gloire. Et pourquoi c'est important d'implanter des églises? Pourquoi c'était important d'implanter cette église-là aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'implanter encore d'autres églises? C'est parce que de la même manière que Dieu s'est révélé par l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu en chair et en os, afin que les premiers disciples aient pu voir et toucher Jésus, le monde va croire que Jésus vient de Dieu quand elle voit des communautés de disciples unies. Quand elle voit pas juste à la télé, pas juste aux infos de temps en temps, où souvent les infos ne sont pas forcément bien, mais quand elle voit des communautés de disciples, quand elle voit des frères et sœurs qui vivent ensemble dans l'amour, c'est là qu'il va leur montrer que Jésus vient de Dieu. Quand on vient de le voir, cette unité ne vient pas de programme d'unité, mais de la connexion commune que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ. Je trouve fascinant de voir ici qu'au verset 9, Jésus dit exprès, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Ce n'est pas que c'est mauvais de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. On a besoin de prier, qu'ils viennent à Christ. sans la prière, sans que le Saint-Esprit agisse pour les convaincre, rien ne va se passer. Donc, nous, on peut participer en priant. Mais là, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Parce que il prie pour l'Église. La réalité est que la voie principale par laquelle Dieu va révéler sa gloire dans le monde, c'est par l'Église. Parce que c'est au travers de qui nous sommes que la gloire de Dieu est manifestée. Au travers de qui nous sommes que le monde puisse voir la nature de notre Dieu de justice et d'amour. Peut-être tu te dis, mais quoi? Au travers de moi? Au travers de nous? Mais comment est-ce possible? Mais c'est l'intention de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous a consacré Betsalel. C'est pour ça que Dieu vous a consacré par le sang et par l'esprit, afin que le monde puisse voir la nature même de notre Dieu. C'est pour c'est ce qu'il a en tête, c'est ce qu'il a dans son cœur, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui est c'est déjà passé, mais c'est ce qui va se passer encore plus alors que vous le collaborez avec lui. C'est l'Église dans son existence et dans ses relations qui confirme la vérité du message que nous annonçons. Connaissez ce verset en Jean 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est notre amour qui montre que nous connaissons celui qui s'appelle amour. C'est pour cela que nos relations fraternelles sont si importantes, qu'elles sont à préserver à tout prix. Jésus dit, si vous êtes en train de présenter votre offrande, que vous réalisez que votre frère a quelque chose contre toi, il faut aller le régler. La relation, c'est plus importante que l'offrande. C'est pour ça que Dieu nous dit de pardonner les uns et les autres. Parce que nous avons un Dieu qui nous a pardonné. Et quand on pardonne les uns les autres, on montre et on manifeste ce Dieu qui a pardonné. Les uns les autres, les uns les autres, c'est un refrain qui revient tout le temps dans le Nouveau Testament, parce que ça a affaire à la gloire de Dieu. Dans notre unité, Dieu révèle et manifeste sa gloire. Il veut montrer au monde qui il est par des églises, par des communautés remplies de lui, unies dans l'amour. Pour vivre selon son initiative, nous devons comprendre l'importance de l'unité. Je termine juste en disant, Dieu nous a consacrés par le sang de Jésus et par son esprit. C'est vrai pour nous tous, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui ont reçu Jésus. Mais c'est vrai aujourd'hui particulièrement pour vous. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu vous dit, que Naomi a partagé tout à l'heure. Il vous a consacrés, c'est lui qui l'a fait. N'ayez pas peur. Ne commencez pas à penser que ça dépend de vous. C'est fait par lui. C'est accompli par lui. Tout a été accompli par lui. Il vous a consacré. Afin que vous puissiez, oui, vous consacrer, vous donner à lui. Afin que lui puisse révéler sa gloire au travers de vous. Nous vivons une période avec beaucoup de distractions. Mais si nous allons vivre pour la gloire de Dieu, nous avons besoin, comme Jésus, de nous soumettre à son initiative. Dieu est en train de révéler sa gloire. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le monde. C'est sa priorité numéro un. Je ne sais pas, vraiment, honnêtement, personnellement, je ne sais pas ce qu'il pense de la COVID. Je ne comprends pas ces mystères-là. Je ne comprends pas tous les mystères de ce qu'il pense de telle ou telle chose, mais je sais une chose. Il est en train de révéler sa gloire. C'est sa priorité numéro un dans la vie. Et si nous voulons participer à ce qu'il est en train de faire, nous avons besoin d'être épris de qui il est. Sa priorité, au-delà de notre protection physique, c'est que nous restions connectés avec lui. Alors nous avons besoin de comprendre la valeur de la communion avec Dieu. Et c'est par cette unité créée, par cette communion, que Dieu se révèle au monde. Alors nous devons réaliser l'importance de cette unité. Habacuc 2, verset 14, nous dit qu'un jour, la connaissance de la gloire de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui lui appartiennent, sera là pour le voir ce jour-là. Et tout ce que nous verrons, partout où nous regardons, ce sera la gloire de notre Dieu merveilleux. Et il n'y aura rien d'autre. Notre Dieu de justice qui est tellement bon. Et ce Dieu d'amour qui s'est donné pour nous. C'est peut-être pour ça que Jésus prie dans le verset 24 de Jean 17. Quand il prie que nous qui lui appartenons, puissent être avec lui et contempler sa gloire. C'est sa vision pour toi et pour moi. Que nous puissions être avec lui et contempler sa gloire. Et on peut commencer dès maintenant. Jusqu'à ce jour, notre mission est de nous émerveiller de la gloire, puiser dans notre communion avec lui et maintenir l'unité de l'esprit. De cette manière, la gloire de Dieu se révèle. Est-ce qu'on peut se lever? Et on va juste prier ensemble. Père, merci pour cette église et pour le privilège d'être avec eux aujourd'hui. Merci que tu as fait de nous des frères et sœurs. On se connaît pas beaucoup, pas du tout pour certains. Mais merci que tu nous as joints en Christ et on est frères et sœurs. Et c'est une joie d'être avec eux ce matin. Merci pour cette parole que tu leur donnes. Merci que tu les as consacrés. Merci que ce nom qu'ils portent en tant qu'église, Betzalel, c'est quelqu'un qui a été choisi. Ils ont été choisis. Tu les as choisis et tu les as consacrés par ton sang et par l'esprit. Alors Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de vivre sur la base de ce que tu as fait pour eux. Je prie Seigneur que tu leur donnes la grâce d'être à nouveau épris de ta beauté. Juste d'être émerveillé devant toi. Toi, le Dieu de justice et le Dieu d'amour. Cette révélation ultime de qui tu es à la croix. Seigneur, donne-leur à comprendre avec moi, je m'inclus dedans, j'en ai besoin aussi, la valeur de cette communion, cette chose que tu nous as donnée, que tu as établie. Nous ne prions pas, nous ne lisons pas notre Bible pour comme quelque part établir quelque chose entre toi et moi, entre nous et toi, mais pour vivre ce que tu as établi. Et tu nous as donné cette chose la plus précieuse que nous puissions avoir, qui vaut mieux que la vie. Et Père, je prie que tu continues à leur donner à vivre cette unité que tu leur as donnée en Christ. En Christ, ils sont un. Alors Seigneur, tu leur donnes à vivre cette unité. À régler les choses qui ont besoin d'être réglées. Et je pense qu'il y a une... Si aujourd'hui tu écoutes et tu dis, mais en fait il y a avec ce frère ou avec cette sœur quelque chose qui ne va pas, même depuis un certain temps. Tu sais, ça ne peut pas rester dans le corps de Christ comme ça. Parce que Dieu nous a fait un, comme le Père et le Fils sont un. Et ces choses ont besoin d'être réglées, d'être mises à plat, d'être pardonnées, libérées. La réconciliation complète, ça, c'est notre héritage en tant que son peuple. Et nous avons besoin parfois de faire notre part en allant demander pardon, en allant chercher la réconciliation. Seigneur, là où c'est le cas, si ça existe ici, je prie Seigneur, tu donnes ta grâce pour cela. Père, sois glorifié, sois honoré, que ton nom soit reconnu et soit loué encore plus dans cette église que tu as établie pour la gloire de ton nom. Que tous puissent voir que Jésus vient de Dieu et que Dieu, tu as aimé cette église parce que l'amour jaillit au milieu de cette communauté. Merci pour ta grâce. Amen.